sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Spectacle vivant. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Jacques Hubert, réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, Anna Sigalevitch, Marie Sorbier et René Solis. C'est une première dispute pour Marie Sorbier. Bienvenue à elle. À notre affiche ce soir, le père de Julien Gosselin, d'après L'homme incertain de Stéphanie Chailloux. C'est à la MC 93 de Bobigny. Love Me Tender, d'après les nouvelles de Raymond Carver, adaptation et mise en scène Guillaume Vincent, au Théâtre des Bouffes du Nord. Infidèle, de TG Stan et de Rovers, c'est au Théâtre de la Bastille. Nous aurons aussi un coup de cœur venu de René Solis, suspense. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des exemplaires de papier, la revue de France Culture, c'est le numéro 25. Où vivons-nous des paysages et des pays? Édité par Radio France et Exil. Je laisse la résonance, hein, absolument. C'est trop beau, j'avais envie de l'écouter jusqu'au bout. Nous ouvrons cette dispute avec un spectacle signé Julien Gosselin, créé en novembre 2015 au Théâtre National de Toulouse, et qui ne s'était, je crois, jamais joué en Île-de-France. Depuis, si le metteur en scène nous a habitués, depuis les Particules élémentaires jusqu'à sa trilogie Donne de Lilo, en passant par 2666, à des spectacles au très long cours avec beaucoup de comédiens, avec le père, c'est le titre du spectacle dont nous allons parler ce soir, c'est une adaptation d'un livre, L'homme incertain, de Stéphanie Chailloux. Il ne dure qu'1h30, il est interprété par un seul et unique, l'unique, oui, Laurent Sauvage.
J'ai mis du temps avant de comprendre la mécanique des choses, ce qui se tenait derrière tout ça, les événements. On a même pensé avec ma femme qu'on avait été envoûté, que quelqu'un dans le village, on ne savait pas qui, avait pu faire ça, nous jeter un sort. On savait que ça existait, ces choses, les mauvais esprits, la sorcellerie. Là où on était, ça se faisait, il y avait des gens qui pratiquaient. Oui, on a même pensé à ça pendant un temps. Quand mon tracteur tombait en panne tout le temps, que les canards crevaient. Par centaines, ils crevaient, les canards. Il fallait bien qu'il y ait une explication, on se disait. Alors on a pensé à ça. Vu tout ce qui nous arrivait, combien ça allait mal. On a pensé que peut-être on avait été envoûté. Je ne mesurais pas alors combien elle était fausse, cette vision. Fausse, naïve, puérile. Car il ne s'agissait absolument pas de chance ou de malchance. On n'était absolument pas les seuls à vivre ce que nous vivions, les seuls à qui ça arrivait. Nous étions des centaines, des milliers. Des milliers de paysans étaient à l'époque comme moi en passe de perdre leur ferme, leur terre, de déclarer faillite. Et ce n'était pas une question de chance ou de malchance. C'était une politique. Simplement ça. Les effets d'une politique. Une politique qui avait été décidée puis nommée. Elle avait un nom. C'était la PAC. La politique agricole commune. Quand j'ai compris ça, que c'était ça, essentiellement ça, cette chose-là qui s'était passée dans ma vie, je me suis senti dépouillé. Comme si on m'avait volé mon histoire, ce que je croyais qui m'était arrivé. Je découvrais que l'événement de ma vie, l'événement qui avait à jamais marqué mon existence, je découvrais que cet événement était le fruit d'une décision touchant des centaines, des milliers de personnes, qu'il appartenait à un système plus général, un système qui portait un nom, était connu, participait d'une politique. Et que ce que j'avais pensé être mon histoire n'était pas plus la mienne que celle de mon voisin, pas plus la mienne que celle d'un autre dont je ne connaissais ni le nom ni le visage, mais qui, à des centaines de kilomètres de là, vivait ce que je vivais, avait ça en partage avec moi, cette chose-là. Être un paysan.
Voilà pour cet extrait de ce spectacle qui s'intitule Le Père, adapté de L'Homme Incertain de Stéphanie Chailloux. Et c'est Anna Sigalevitch qui commence à nous en parler. Il faut donner quelques images avec le sens de la concision qui vous caractérise,
qui me caractérise bien
Anna.
Sûr. Alors, quand on arrive au théâtre, non, je te trompe. Donc, le spectacle commence dans un noir total. Extrêmement profond, mais un noir qui est même rare au théâtre.
Oui.
C'est-à-dire que moi, j'ai agité mes bras et je ne les voyais pas. C'est vraiment un noir
vous.
Très... Maintenant, personne n'a vu, vous n'avez pas vu Arnaud.
Non, mais c'est vrai que il y a des lumières de sécurité qui ont sans doute été occultées là, parce qu'il y a
Là, il y a vraiment un noir absolument total. Et ça commence par une bande-son qui est assez minérale au départ, métallique, pas tout à fait identifiable, qui devient peu à peu mélodique, qui va devenir très forte, puis baisser, etc., avec une voix, qui est la voix sonorisée donc de Laurent Sauvage, qui commence par dire « Je ne me souviens pas de mes rêves, mais j'ai construit ma vie à partir de mes rêves. » Donc, une vie normale où il fallait travailler, où il était d'accord pour travailler dur, où il s'est marié, où il a eu des enfants, où il a eu envie d'avoir une ferme, il a eu cette ferme. Et puis, voilà, après, comme on l'a entendu dans l'extrait, les choses ont dégénéré assez rapidement et il s'est retrouvé dans une situation de très très grande précarité, de très grande pauvreté, en marge de la société, avec ce sentiment de honte très fort sur lequel il a travaillé et dont il va sortir quelque chose à la fin du spectacle. Donc, on a un acteur qui est seul en sol, dont on entend d'abord uniquement la voix. Et puis, petit à petit, mais de façon imperceptible, comme fait Claude Régis, c'est-à-dire que c'est le noir total, et puis petit à petit, il y a une sorte de silhouette qui émerge, qui apparaît. Et puis, il y a des lumières qui montent un petit peu, puis il y a de la fumée, on a l'impression qu'on est comme dans quelque chose de très nébuleux, dans la fumée, dans les limbes, quoi, entre le paradis et l'enfer, on ne sait pas exactement où on est. Et puis, il va y avoir plusieurs parties, avec le dispositif scénique et qu'il y a deux grands plateaux, un l'un sur l'autre, deux grands plateaux rectangles, dont l'un, celui du dessus, va monter petit à petit, comme une chape de plomb qui va être au départ à 2 mètres au-dessus du sol, et puis qui va monter petit à petit, qui va créer comme une sorte de faux plafond. Laurent Sauvage va d'ailleurs être un moment surélevé, il va être au-dessus de ces deux plateaux. Et puis à la fin, ça va être tout en haut et il ne restera plus que une sorte d'enclos d'herbe verte où là il va s'adresser au public de façon beaucoup plus simple, c'est-à-dire pas sonorisée, en regardant le public droit dans les yeux et on va découvrir vraiment, parce qu'on voyait les contours, mais on va découvrir vraiment toute la précision, la subtilité de sa silhouette et de sa présence.
Après un passage où effectivement il n'aura plus été là, où le texte aura été projeté avec un travail de musique.
Donc ça, on a vraiment toute le style et la patte de Julien Gosselin. Donc faire entendre le texte de plein de façons différentes, par la voix, gonflé par la musique, sonorisé. Ensuite, le texte qui s'inscrit. Alors, c'est très intéressant parce que quand ça s'inscrit juste une seconde, ce sont les enfants. Et donc, pour ne pas faire entendre le texte d'enfant, là, il s'inscrit. Donc, on peut l'imaginer tel qu'on veut comme spectateur. On peut l'entendre comme on veut parce qu'il est juste écrit. Et après, donc, ce texte qui sera dit sans sonorisation.
Et sans musique.
Et sans musique.
Alors, après cette brillante description, on va voir si ça agit sur vous et de quelle façon. Anna Sigalevitch, Marie Sorbier, maintenant, votre premier sentiment sur ce spectacle.
Mon premier sentiment, c'est un peu pour moi le spectacle de la réconciliation avec Julien Gosselin, qui m'avait passablement énervé, même irrité sur ces grandes formes qu'on a vues récemment. Alors c'est un spectacle de 2015, donc on n'est pas sur une création. Mais je trouve que là, tout ce qui m'apparaissait comme étant des trucs sur ses précédents spectacles, c'est-à-dire cette lumière assez caractéristique, le rapport à la musique très forte. Il y a tout un passage du spectacle où le son est quand même assez puissant.
Avec des infrabasses qui secouent les organes.
Voilà, que je trouvais presque spectaculaire au sens premier du terme. Je trouve que sur cette pièce-là, ça fonctionne et ça prend sens. Et donc, c'est une vraie rencontre, je trouve, ce spectacle, entre un auteur, entre le metteur en scène et entre cet acteur magnifique qui est Laurent Sauvage.
Bon, voilà, une première bonne impression. René Solis, qui n'a pas des rapports très simples avec le travail de Julien Gosselin, Qu'est-ce que ça a donné ce coup-ci?
Oui, ça.
Mais vous êtes toujours intéressé par son travail.
Oui, toujours. Et d'ailleurs, le spectacle qu'il a fait cet été à Avignon, l'adaptation de trois romans d'Anne de Lillo, qui était un spectacle de nouveau long cours, très très long, j'ai trouvé matière à des choses intéressantes. Je trouve, c'est peut-être le spectacle de Julia Gosselin que j'ai préféré, le d'Anne de Lillo. Alors celui-là, je suis pas complètement d'accord avec vous, Marie, parce que j'ai l'impression de retrouver les défauts, enfin ce qui m'agace chez Gosselin, dont cette utilisation du son et de la lumière, de la musique en particulier. Moi, je supporte pas cette espèce de surlignage qui fonctionne à tous les coups, c'est-à-dire les infrabasses, comme vous disiez, cette façon de faire résonner comme ça les choses, de les dramatiser. Donc, au cas où on n'aurait pas compris que ce texte a une portée dramatique forte, voilà, on est vraiment sommé d'être comme ça saisi par la puissance des choses, les lumières. Alors oui, le noir très bien au début, effectivement, et l'acteur et le personnage qui surgissent de ce noir. Bon, après, moi j'ai surtout retenu les lumières stroboscopiques, et là aussi c'est vraiment, on peut dire, un de ces tics, et c'est une des choses où j'ai, pareil, il y a la volonté de créer un effet maximum, et cet effet, je le trouve extrêmement redondant par rapport au texte, c'est comme si on n'avait pas compris, voilà. Alors, cela dit, moi je suis très content d'avoir entendu ce texte, parce que je connaissais pas le livre de Stéphanie Chaillot. Je suis content de retrouver Laurent Sauvage, parce que oui, c'est l'acteur de la génération de la bande, c'est la bande à Stanislas Nordet, et alors il y a quelque chose qui l'a beaucoup marqué sur l'exigence de diction, justement, et on entend bien dans l'extrait comment il y a le souci de faire entendre, et ça c'est plutôt très bien, et puis en même temps c'est un souci qui est, lui je trouve, on peut pas dire que c'est du surlignage ce qu'il fait, c'est plutôt un souci de la scansion et de la musicalité des choses. Donc les silences, les respirations sont extrêmement importants. Donc il le traite comme une partition musicale, et de ce point de vue-là, il a raison, parce que le texte de Stéphanie Chaillot, qu'on pourrait dire comme étant minimaliste, hein, il y a un côté post-durassien comme ça dans l'écriture, mais il y a une dimension musicale, et cette dimension musicale, on l'entend, et aussi la capacité à en dire beaucoup avec peu, et de ce point de vue-là, on peut dire, c'est plutôt un beau texte, oui.
Anna Segalevitch, avant que je n'intervienne,
oui,
petite réaction.
Ben, moi, je suis assez d'accord avec René.
Renaud Célis.
Pardon. Avec René. Mais disons,
René Solis.
Excusez-moi. Sauf que je dirais pas redondant. Pour moi, c'est pas redondant. Je trouve que c'est pas en accord avec la dramaturgie du texte. C'est-à-dire que, en voyant le spectacle, je me suis dit, oui, c'est extrêmement bien fait, c'est du grand art. Objectivement, il a une façon de gonfler le théâtre, de procurer des sensations très fortes aux spectateurs qui sont très, très, très bien faites, intelligentes, incontestablement. Mais après, je me suis dit, mais, en fait, est-ce que ce texte, avec plus de simplicité, on l'entendrait pas mieux? C'est-à-dire que le fait de vouloir ajouter, par beaucoup d'effets de sophistication et de technologie comme ça, des sensations, hein, quelque chose de très physique pour le spectateur, alors oui, on le reçoit, mais est-ce qu'on pourrait pas un petit peu plus aussi faire confiance au spectateur et à le... Parce que moi, je pense que ce texte, dit très simplement par Laurent Sauvage, qui est une incarnation idéale, on l'entendrait presque mieux. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça enlève de la théâtralité plus que ça n'en ajoute, en fait.
Mais là, c'est une supposition, Anna. J'entends bien, mais il faudrait que ce soit fait pour qu'on puisse comparer. Donc, c'est un peu difficile. Moi, je pense qu'au contraire, moi, je connaissais pas non plus le texte de Stéphanie Chaillot, donc du coup, ça m'a donné envie de le lire. Ce qui est déjà une première bonne chose.
Oui,
c'est vrai que, contrairement à vous, moi je pense que c'est un oratorio, et que donc un oratorio, il a une partie de musique, il a une partie de spectacle avec ce travail sur les lumières. C'est un oratorio, on pourrait dire aussi, c'est une chanson, c'est un concert, c'est quelque
oui,
chose.
Oui, il le lit comme ça d'ailleurs. Hein. Il dit qu'il a lu le texte en disant que pour lui, ça avait la force d'une chanson.
Bon, ben, comme ça, nous sommes raccord là-dessus. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et c'est vrai que vous avez prononcé le nom de Claude Régis. C'est vrai que j'aurais jamais imaginé, parlant d'un spectacle Julien Gosselin, évoquer Claude Régis.
Là, c'est frappant.
Sauf que, oui, mais c'est, il est. beaucoup pourraient le faire, lui il le fait avec une délicatesse que je trouve tout à fait infinie, et de même de revenir à la fin en étant dans le silence total et non sonorisé, je trouve qu'il y a une qualité d'écoute. Alors là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de façons de faire mieux entendre ce texte-là, et puis sur le fond aussi, parce que du coup, moi je l'ai vraiment, me semble-t-il, bien entendu. Je vais me faire encore des copains. Pour moi, c'est vraiment l'anti-Édouard Louis. C'est-à-dire que là, on parle vraiment de politique et on en parle avec beaucoup de pudeur, beaucoup de dignité et en même temps, en étant extrêmement concret. Je pense que ce texte-là, il a une force immense et il m'a semblé qu'elle était grandie par les partis pris de Julien Gosselin. Marie Sorbier ?
Oui, et puis alors moi, ce que je crois aussi qui m'a fait vraiment rentrer dans ce texte, c'est qu'on voit quand même beaucoup de seuls en scène. On voit beaucoup au théâtre pour des raisons multiples. Et le côté, je dis mon texte, et même si je suis un grand acteur, je dis mon texte, je suis assis sur une chaise et puis je porte le texte tout seul et c'est quand même bien. Parfois, c'est un petit peu lassant. Et je crois que ce qui m'a fait du bien en allant voir ce spectacle à MC93, c'est de voir de la mise en scène sur un seul en scène. Et un peu à l'inverse de ce que vous disiez, c'est
mais
que...
la mise en scène et les effets, ça n'a rien à voir. Enfin, je parle pas de mise en scène, je parle d'effets. Bah
ça participe de la mise en scène. Ça fait partie de son vocabulaire.
Oui et non. Oui et non, non, pardon.
Alors,
enfin, là, je parle de technologies extrêmement sophistiquées qui, pour moi, sont pas essentielles dans ce spectacle. Voilà.
Mais pourquoi elles sont pas essentielles?
Pourquoi elles sont pas essentielles? Parce que pour moi, ça fait perdre de la simplicité du propos.
D'accord. Voilà. Marie Sorbier, pour préciser votre pensée.
Oui, alors que je trouve au contraire que justement ces effets permettent justement de ne pas être sur un texte premier degré comme il peut l'être. C'est-à-dire quand on le lit, en effet, il a une force et une puissance sociale. C'est pas trop ce mot, mais il y a quand même de ça
politique
dedans.
Et politique et sociale.
Je trouve que quand Laurent Sauvage le dit, il dépasse largement ce cadre-là et il vient toucher des sphères beaucoup plus intimes. C'est-à-dire que finalement, c'est un agriculteur, mais ça n'en est pas. Laurent Sauvage, il n'est pas agriculteur sur cette scène. C'est un homme. Ce dont ça parle, c'est plutôt d'un homme qui se sent raté parce que les autres le voient comme un homme raté. Ça parle de l'échec. Donc ça dépasse, je trouve, largement le côté contextuel de ce texte.
Ouais.
Et pour moi, je crois que le côté immersif, avec le noir dont vous parliez, les lumières, ce son, tout ce côté un peu effet, m'a permis de dépasser justement le côté contextuel du texte et passer à autre chose.
René Solis ?
Alors d'accord sur la dimension musicale et sur la portée de ce texte, je crois que là-dessus on est tous à peu près d'accord, mais je voudrais revenir sur ce que disait Anna, là aussi je suis plutôt d'accord avec elle et je serais peut-être même plus radical encore sur cette histoire d'effet et de mise en scène, parce que je pense que voilà un spectacle de Julien Gosselin où effectivement il y a tous ces effets et sa maîtrise des effets qui est tout à fait, qu'on peut saluer, il est bon là-dessus, et je trouve justement que c'est un spectacle où il y a à peu près, je dirais, pas de mise en scène. En fait, il y a les effets qui fonctionnent en tant que tels, et il y a un bon acteur, un bon texte, mais je ne suis pas certain que ce soit ce qu'on appelle vraiment une mise en scène.
Ouais, alors il faudrait faire une définition de la mise en scène, parce que d'abord, Julien Gosselin, il adapte, donc il fait ce travail-là, ensuite il dirige un comédien. Il joue pas tout seul, Laurent Sauvage. C'est extrêmement précis ce qui lui est demandé. Quand c'est Jean-Quentin Chatelain seul sur une scène, qui dit du Fernando Pessoa, qui est une mise en scène de Claude Régis.
Ah oui.
Expliquez-moi les différences.
Expliquez-moi. Elle tient dans le sentiment qu'il y a, même si on comprend pas pourquoi il fait ça, qu'il y a une nécessité. Des choses, c'est-à-dire que le spectacle ne peut pas être autrement tel qu'il est conçu. Et là,
c'est le cas.
Dans ce spectacle de Julien Gosselin, je trouve que pour moi, il y a eu tout le temps une dichotomie. Je veux dire, j'ai vu les effets qui m'agacent
ou que je peux reconnaître l'efficacité, ou qui peuvent être
à certains moments pas mal. C'est pas le noir fonctionne. En fait, il y a des choses qui fonctionnent très bien, mais je n'ai jamais, à aucun moment, ressenti qu'il y avait dans la mise en œuvre de ces effets une réelle nécessité. Voilà, donc ce serait ça la différence.
Bon, nous on l'a ressenti, je crois, Marie-Sorbier.
On l'a ressenti grâce notamment, je voudrais en ajouter juste une petite couche, mais je trouve Laurent Sauvage absolument magnifique. Et quand Julien Gosselin dit que ça aurait pu ne pas être. Si Laurent Sauvage n'avait pas accepté, il ne l'aurait pas fait, je comprends, parce que c'est vraiment une adéquation, je trouve, parfaite entre le texte, le metteur en scène et cet acteur.
Bien, on serait irréconciliable là-dessus. Alain Ségalévi, je ne fais pas cette tête, c'est pas grave. Non, mais vous aviez l'air un peu. Perturbé par mes derniers propos.
Ah non, pas du tout.
Bon, Le Père, adaptation, mise en scène. Oui, mise en scène. Julien Gosselin, d'après l'homme incertain de Stéphanie Chaillou. C'est un texte qui est publié aux éditions Alma, louons cet éditeur. Présenté jusqu'au 29 septembre à la MC 93 de Bobigny, c'est dans le cadre du Festival d'automne. Il y aura aussi d'autres représentations, 22 et 23 novembre, au Centre culturel André Malraux, à Vendeuvre-les-Nancy. À suivre dans la dispute, Love Me Tender, Infidèle et puis un coup de cœur à venir.
La dispute. France Culture.
Après Julien Gosselin, un de mes autres metteurs en scène préférés, et Guillaume Vincent, alors est-ce que je suis gâté ce soir ou pas? On va voir, il propose en tout cas au Beauf du Nord une adaptation de plusieurs nouvelles du génial Raymond Carver, le titre de ce spectacle, Love Me Tender.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul.
Voilà, défaut d'extrait du spectacle, un petit peu de sa bande originale, Love Me Tender. Il faut dire que le spectacle a été créé vendredi soir, hein. Donc c'est tout frais, tout récent, et se joue jusqu'au 5 octobre au Beauf du Nord. Il y a quelques autres dates ensuite, dont je parlerai, premier regard, de Marie Sorbier sur Love Me Tender. Raymond Carver et vous, tiens, pour commencer.
Bien sûr, mais alors je crois que c'est un peu le problème du coup, c'est que j'aime tellement les nouvelles que j'avais un petit peu peur de les voir, de voir leur passage au plateau, et je crois que c'est le reproche principal que j'ai à en faire. Je trouve que j'ai pas retrouvé ce qui fait, je trouve, le génie de ces nouvelles, c'est-à-dire cette espèce de basculement intime qui vient de pas grand-chose et qui pourtant marche et qui crée un malaise absolument génial quand on lit et très présent avec des choses très simples. Et sur le plateau, j'ai pas grand-chose à reprocher techniquement. C'est-à-dire que les comédiens sont tous super, la distribution est très bien. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, en tout cas sur l'intérêt ou sur la sensation que ça peut procurer aux spectateurs.
Alors c'est vrai qu'il faut, pour en dire quelques petits éléments de plus, c'est un spectacle en deux temps, hein, scindé très clairement en deux parties qui fonctionnent sur le même principe, les deux d'histoires entremêlées, donc de nouvelles entremêlées, mais sur des tonalités très différentes, puisque la première partie, pour dire ça un peu rapidement, c'est sitcom, avec rire enregistré, et boulevard aussi, mais un boulevard qui déraille très volontiers, et la deuxième partie, davantage, on va dire, carvérienne, parce que davantage, plus d'obscurité, plus de mélancolie, plus de misanthropie, enfin, plus de malaise. Voilà, pour dire un peu les choses simplement, mais vraiment, le spectacle se scinde, en deux comme cela. René Solis.
Alors, il a du savoir-faire, ce garçon. Alors, il reprend, visiblement, les histoires croisées, ça lui plaît beaucoup, parce que dans le précédent spectacle qui était Rendez-vous Gare de l'Est, ça fonctionnait aussi sur ce principe, hein, des histoires qui se...
Ouais, non, c'était un témoignage, Rendez-vous Gare de l'Est. Alors, attendez, vous l'aviez pas du tout aimé, mais c'est pas une raison pour le transformer.
Celui qui se passe dans les chambres d'hôtel où les histoires se succèdent.
La nuit tombe.
Excusez-moi.
C'était il y a trois spectacles,
voilà.
Donc
j'ai revenu celui-là parce que j'avais été impressionné par l'efficacité de son, du maniement de son dispositif technique et son goût pour entremêler les histoires. Et il fait ça très bien. Vraiment très bien, il y a rien à dire. Il y a excellent acteur, donc plutôt très bonne soirée. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vous rejoins un peu, Marie, c'est-à-dire que Il n'y a pas de contresens au sens où il y a l'humour noir, la férocité, la comédie, la tragédie, la mélancolie. Tout ça est là. Il n'y a pas de voilà. Mais effectivement, il manque quelque chose. Il y a une façon de simplifier et là aussi quand même de rendre les choses accessibles, qui fait qu'on est. Alors cette première partie, il y a des partis pris, en tout cas, qui, moi, m'ont intéressé, parce que vous parliez du boulevard. Et effectivement, ils poussent à fond ça, et j'ai repensé, c'est drôle, à une pièce que j'avais vue quand j'étais enfant et qui m'avait beaucoup impressionné, et que je crois, en fait, fait très peur, qui était une pièce comique. C'est Courteline, les boulingrins, petite pièce de Courteline. Ouais. Et c'est l'histoire d'un type qui débarque,
dans un couple
bourgeois, et qui pense passer un moment formidable. Et en fait, c'est un cauchemar absolu. Et il y a quelque chose de Courteline dans la façon dont il traite Carvère, et finalement c'est pas du tout inintéressant, parce que ça voilà, il y a des moments de comiques absolument formidables, l'histoire de Madame Altenborough, enfin on n'a pas le temps de raconter, la rencontre à Vienne de cette vieille dame australienne qui a retrouvé un sac à main et qui le rapporte à ses propriétaires, c'est un moment de très grande qualité comique, on va dire, mais quand même, et je suis d'accord avec vous là-dessus, Marie. Il y a toute ce plaisir qu'on a quand on prend les nouvelles de Carver, qui est formidable, parce que effectivement, on est tout le temps dans ce balancement, ce basculement. On se recrée soi-même tout le temps les images, on comprend, on devine. Il y a des choses très précises, mais il y a en même temps une dimension allusive très forte. Donc on les reconstruit au fur et à mesure toutes ces histoires. Là, il nous les donne à voir de façon extrêmement crue au premier degré, et du coup, il manque quelque chose quand même. Donc moi aussi, j'ai encore une fois passé une bonne soirée, mais je suis sorti avec l'idée quand même que oui, c'est mieux en lecture, quoi.
Bon, Anna Segalevich fait des mou, mais que signifie-t-elle ? Réponse.
Non, parce que quand vous dites cru et premier degré, je suis pas d'accord, parce que le travail d'adaptation est tellement important qu'il a fait. Enfin, il y a quand même 6 nouvelles où dans la première partie, il y a 2 nouvelles du même recueil qui sont adaptées. Puis ensuite, dans la deuxième partie, c'est 3 nouvelles qui s'imbriquent, mais c'est très compliqué ce qu'il fait. Parce que quand on regarde, c'est quand même très très subtil. Il a à la fois fusionné certaines nouvelles. Il a pris un petit bout de l'une, un petit bout de l'autre. Il les a remontées, mises en parallèle. Et les histoires se racontent en parallèle sur scène. Et moi, je trouve que d'avoir envie de faire ça avec Carver, c'est intéressant, parce que Carver, c'est évidemment l'art du montage et du cut-up et de passer d'une temporalité à l'autre, d'une histoire à l'autre. Mais voilà, au sein des nouvelles. Et lui, il le fait, il le refait sur les plateaux. C'est-à-dire qu'il se sert de la complexité de Carver en complexifiant encore plus, en mettant les choses. Et je trouve que c'est très intéressant en termes de mise en scène. C'est audacieux, c'est une gageure de faire ça. Et pour moi, c'est pas encore complètement fluide et complètement réussi. Voilà. Je veux dire que, notamment, cette première partie, qui est en effet sur un rythme de comédie, presque de vaudeville, donc qui, je crois, doit être extrêmement précise en termes de rythme, d'échange, etc. Et on n'y est pas encore complètement, à mon sens. Et donc, comme on n'y est pas complètement et que les acteurs cherchent encore un tout petit peu leur marque, je trouve, du coup, il n'y a pas l'entre les lignes qui peut se dégager. C'est-à-dire qu'on est uniquement sur ce qui est dit et dans voilà, la mécanique qu'on essaye de trouver, qui n'est pas encore complètement fluide. En revanche, dans la deuxième partie, où là, pourtant, c'est presque plus clair. Ce sont 4 couples avec donc 4 histoires distinctes. Et là, on a effectivement cet univers beaucoup plus caractéristique, enfin, en tout cas, qu'on connaît mieux de Carver, qui là se dessine très bien. Et on entre comme ça, paf, à brûle pour point dans chaque histoire, et on passe d'une séquence à l'autre. Ça, je trouve que c'est remarquablement bien fait, et que les personnages sont très, très bien croqués. Et finalement, la première partie est éclairée par la deuxième partie. Je trouve que ça forme quand même un tout sur Carver qui est pertinent et très sensible. Donc c'est quand même un spectacle, moi, que je trouve pas agréable, que je trouve intéressant, pas encore complètement au point, mais que je trouve très intéressant.
Alors je crains qu'on soit un panel non représentatif du public, parce qu'il me semble qu'on est visiblement tous très carvériens autour de cette table. Ça fait vraiment partie de mes auteurs absolument fétiches, et que c'est Pour en avoir parlé avec Guillaume Vincent avant l'été, quand il devait travailler sur ce spectacle, je dis, ah, Carver, t'es formidable. Il m'a dit, mais personne connaît. Bon, j'ai l'impression qu'en tout cas,
non.
Enfin, il disait, enfin, pour en parler autour de lui, il avait l'impression que c'était pas un auteur si lu. Je me réjouis qu'il le soit davantage, mais du coup, ça nous a fait entrer tous dans ce théâtre des Bouffes du Nord avec une attente et peut-être aussi une forme d'inquiétude que j'ai absolument partagée, d'autant que, je le redis, j'aime énormément les spectacles de Guillaume Vincent et j'aime beaucoup son travail d'une façon générale. Alors, ça c'est le premier préambule. Le deuxième, c'est de parler d'un spectacle dont qu'on a vu le soir de la première. Alors, vous étiez la deuxième ou troisième, Marie Sorbier, mais c'est toujours un peu injuste. Mais bon,
d'autant qu'il faut quand même préciser qu'il y a eu un changement d'acteur, qu'il y a eu des complications dans cette création.
Sauf que. On doit s'en fiche et qu'un spectacle il doit être prêt le jour de la première. Bon, je pense que c'est comme vous, c'est pas tout à fait le cas et qu'il est effectivement encore un peu fragile et qu'au fur et à mesure des jours, le spectacle devrait gagner. La partie comique, je partage aussi sur la première en tout cas, ça fonctionnait pas tout à fait. On voit bien les intentions, on voit bien effectivement la finesse du travail de Guillaume Vincent dans son adaptation, mais quand ça ne marche pas dans la comédie,
c'est plus rude.
C'est terrible. Ouais. Alors, est-ce que ça manque de tempo? Est-ce que ça manque? Moi, je pense que ça manquait presque un peu de plus grande folie encore. Je trouve que si on va de ce côté-là, il faut aller vraiment beaucoup plus loin, beaucoup plus noir, taper beaucoup plus fort. Vous voulez réagir sur cette dimension-là?
Oui, parce que c'est ce que disait Marie parlait de la bascule qu'elle n'avait pas trouvée. C'est précisément ça. Il faut aller loin quelque
peut-être
part
encore
pour
plus loin.
Qu'il y ait la bascule. Enfin, et là, on l'a pas encore.
Oui, et puis même si dramaturgiquement, je vous rejoins, il y a quelque chose d'en effet très construit et c'est intelligent. Et Guillaume Vincent est un metteur en scène intéressant et c'est pas le propos. C'est moi, il m'a manqué quand même une nécessité. Je n'ai pas compris ce qu'il avait voulu faire en montant ça, à part quelque chose de finalement très. Je vous rejoins un peu presque premier degré, c'est-à-dire qu'on a une histoire qui est racontée. Alors oui, c'est plusieurs histoires mêlées, mais finalement il n'y a que ça. J'ai pas vu ce qu'il voulait dire derrière, j'ai pas compris l'épaisseur là où il la mettait. Et j'avais un peu en tête la dernière fois que j'avais vu du Carver mis en scène, c'était par Sylvia Costa en 2016 au T2G, qui avait monté aussi une nouvelle de Carver du recueil Les Vitamines du Bonheur qui s'appelait Cathédrale et qui elle avait trituré le texte de façon plus violente et qui, je trouve, avait réussi, elle, à faire passer cette espèce de bascule et de malaise de façon très prégnante sur un plateau. Comme quoi, c'est possible de monter Carver sur scène.
Oui, ça doit être possible.
Mais voilà, et là, ça m'a manqué d'urgence. Quoi.
Oui, et du coup, on se demande, comme spectateur, en quoi on est impliqué dans ce qui se joue devant nous. On voit des très bons comédiens, on voit effectivement un travail de scéno, etc. Moi, je ne me sentais pas très impliqué. René
oui,
Solis.
Oui, et moi, je ne sais pas si en allant plus loin, c'est ça
Non,
moi j'ai toujours quand même du mal et je trouve que le spectacle en fait partie avec ce que je ressens comme des choses trop explicatives, c'est-à-dire qu'il y a une quelque chose de démonstratif, une façon de souligner encore une fois tout ce qui est dit et toutes ces situations et transformer les nouvelles de Carver en théâtre de situation. Je suis pas certain que ce soit ça l'orientation. La plus judicieuse. Mais en même temps, il y a un gros travail incontestable et des choses qui fonctionnent très bien. Donc voilà.
Anna Segalevitch.
Moi, je vais y retourner. Je suis sûre que le spectacle je suis sûre que le spectacle va se mettre en place plus et que quand les acteurs seront, parce que par exemple, Émilie Cerchi-Formentini, qui est quand même une très très grande actrice,
immense
incontestablement. Là, je ne l'ai pas senti complètement à l'aise. Enfin, en tout cas, pas au maximum
pas
des moyens qu'elle a.
Pas aussi rayonnante qu'elle est.
Voilà, Florence Janas, c'est pareil. Donc, je pense qu'il y a... Et puis, c'est fragile, un spectacle. Et Guillaume Vincent, il fait un théâtre qui est fragile. Mmh. Un théâtre qui repose beaucoup sur les acteurs. Parce qu'on parle de mécanique, on parle de savoir-faire, on parle de tout ça. Mais alors ça, c'est dans le travail. Mais c'est pas du tout pour moi le fond de son théâtre. Le fond de son théâtre, c'est quelque chose de justement de très, très humain où les acteurs sont au cœur de tout. Et où du coup c'est eux qui fournissent aussi beaucoup de matière et donc s'ils sont pas complètement à l'aise ils peuvent pas se déployer totalement. Guillaume Vincent il adore les acteurs et il essaie toujours de mettre en scène des héros et des héroïnes. On ressent ça beaucoup dans ces spectacles et là ils sont pas encore parfaitement à cette place là.
Alors Kyoko Takanaka elle était formidable dès le soir de la première, assez exceptionnelle,
manger
le plateau et chose très rare et comme ça me permet d'en parler, l'enfant dont je ne connais pas le nom, est-ce que c'est Charles-Henri Wolff? mais c'est, non, c'est pas en alphabétique. Je ne sais pas qui est l'enfant qui joue dans ce spectacle.
Très bon.
Je l'ai trouvé exceptionnellement bon. Non, mais c'est vraiment, c'est souvent, bon, une partie un peu faible. Il y a un rôle d'enfant, il faut un enfant. Lui, il est absolument formidable. Bon. On va y retourner, c'est une bonne idée. Love Me Tender, d'après les nouvelles de Raymond Carver. Adaptation mise en scène Guillaume Vincent jusqu'au 5 octobre au Théâtre des Bouffes du Nord. Et puis ensuite, il y aura d'autres dates, 8 et 9 novembre à Air Libre. C'est à Rennes. Et puis on bascule au mois de mai, du 22 au 24 mai, à la Comédie de Reims. Et tout de suite, le coup de cœur de René Solis. C'est le moment donc du solo dans la dispute. C'est un solo tournant ce soir. C'est pour René Solis qui a choisi de nous parler des 4 saisons de Délices d'Ada à voir à Annonay. C'est le 21 septembre, autant dire à la fin de la semaine, vendredi.
Oui, c'est ça, oui.
De quoi s'agit-il ?
Alors, quand même dire dans quelles circonstances je l'ai vu, parce que vous savez que je suis un fan du festival de théâtre de rue d'Aurillac.
Absolument.
Où j'ai suivi avec beaucoup de plaisir et de curiosité cette année encore. Édition très particulière, puisque c'est la dernière édition dirigée par Jean-Marie Sangy, qui est la figure d'Aurillac et figure du théâtre de rue, qui a passé quand même 25 ans tête de ce festival, dont il a fait quand même voilà un événement artistique majeur. Et donc, c'est un festival qui n'était pas du tout crépusculaire ou testamentaire, pas du tout. Mais il a pris soin quand même d'ouvrir tout l'éventail et de montrer tout ce qu'il aimait. Et dans les invités, il y avait des historiques, des dinosaures. Hein, il y avait même le théâtre de l'Unité, Jacques Lichine, Hervé de Lafont, qui était là au moment de la création d'Aurillac en 1986 et qui était à l'affiche. Et puis, il y avait plusieurs compagnies comme ça, un peu historiques du théâtre de rue, dont Délices d'Ada, qui est une compagnie que j'aime beaucoup et qui est travaille souvent sur des thèmes musicaux. C'est la musique a toujours été importante dans leur travail. Et donc là, ils font les 4 saisons de Vivaldi. Alors, version légèrement adaptée quand même, on va dire. Donc, pour saxo, hein, c'est le saxophone, mais c'est l'intégrale de la
partition
absolument, avec donc réarrangée par Chris Chanet, avec la participation d'une chanteuse lyrique, Clarisse Pirou, avec un dispositif scénique formidable. Alors moi je dis c'est un dispositif en carré, mais en fait ils expliquent que c'est le dispositif pour les 4 saisons, c'est le dispositif de la pizza 4 saisons, et le dispositif de la pizza 4 saisons, c'est-à-dire que les spectateurs sont au centre de ce qui est un cercle, et les spectateurs sont en carré au centre d'un cercle. C'est
je vais prendre des notes.
La quadrature du cercle.
Je vais dessiner en même temps.
Chaque mouvement, donc les 4 saisons, qui sont encore une fois données dans leur intégralité, même si la partition est tout à fait arrangée, à chaque fois on se tourne d'un quart de tour. C'est-à-dire que ceux qui sont au premier rang pour le printemps.
À Madison, et c'est cuit à quelle heure
alors ? Sont au dernier rang quand vient l'hiver. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est le style d'Élise Dada, donc à la fois complètement loufoque, minimaliste, c'est-à-dire il y a très peu de choses, c'est une pantomime, il y a des objets, il y a des tas de choses comme ça, et en même temps c'est d'un sérieux artistique qui est impressionnant, et c'est un spectacle formidable, de très jouissif. Coup de cœur d'Aurillac. Il y en a un deuxième très rapide.
Ah non. Les quatre saisons. Non, mais on a déjà parlé du cirque trop là.
Du 23 novembre au 15 décembre.
Non, mais là, vous brouillez le message, René Solis.
Non, deux spectacles formidables.
Non, vous aurez un gage.
D'accord.
Vous aurez un gage. Plus de coup de cœur pour René Solis. Aïssa Toundoy, vous notez, s'il vous plaît, sur son carnet de correspondance. 4 saisons de Délices d'Ada. La prochaine date, c'est le 21 septembre à Annonay.
La dispute. France Culture. Laporte.
Le dernier spectacle, si on veut bien m'ouvrir le micro, merci beaucoup Jacques. Le dernier spectacle à notre sommaire ce soir est co-signé Tejestan et De Rovers, soit deux collectifs flamands qui s'emparent cet automne de pans de l'œuvre d'Ingmar Bergman, dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Le premier des 3 spectacles qu'il propose est intitulé Infidèle, d'après le scénario du film et de l'autobiographie de Bergman, Laterna Magica.
Tu voulais qu'on joue à imaginer ?
On peut toujours essayer.
Si on doit tirer du plaisir de cette tentative, faut que tu me décrives de façon assez précise, naturellement.
Pas recommencer ? Tu es séduisante. Tu es très séduisante.
Bon début. La pièce commence avec le piano jouant des octaves de Do et il est suivi du violon, de l'alto et du violoncelle qui soupirent ensemble et jouent deux notes qui semblent prononcer le nom de Clara. Piano, Do, alto, violoncelle. Écoutez et comprenez.
Mais quelle surprise! Même que je serai à Paris à partir de la mi-juin.
Mais c'est génial!
Mais c'est sublime!
Alors on pourra aller ensemble?
Mais oui!
Et faire de repas délicieux!
Mais si, ça c'est
chouette! Alors, pour moi, je suis bloqué à Detroit. Soudain, je ne sais pas répondre. Je ne veux sous aucun prétexte rompre mon mariage. Je ne veux absolument pas partager ma vie quotidienne avec David. Je veux ma liberté.
Oh, bordel, que tu es pénible quand tu t'inais.
Voilà pour ce montage d'extraits de Infidèle. Au pluriel, c'est le titre du spectacle de Tégestal et de Rovers, lui aussi, dans le cadre du festival d'automne à Paris. Anna Segalevitch.
Oui.
Allez-y, c'est
j'y
à
vais.
Vous.
Alors, donc, je décris un petit peu le début du spectacle. Les acteurs sont en scène au départ, on a quelques projecteurs qui sont comme un petit peu comme des balançoires, qui sont à 50 cm, 1 mètre à peu près du sol. Et puis ils sont là quand le public arrive, il y en a 2, 3, puis 4, enfin bon, voilà, les Tégestan hein, qui font ça régulièrement. Et puis le spectacle commence et ça commence par tu voulais qu'on joue à imaginer. Mmh. Voilà, et donc là le dispositif va se mettre en place. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui vont s'articuler en même temps. C'est vraiment un spectacle qui met en branle plein de choses en puisant à la fois donc dans le scénario d'Infidèle et dans l'autobiographie de Bergman où on va raconter une histoire, mais raconter une histoire de façon particulière. C'est-à-dire en entrant dans cette histoire, en sortant, en ayant des adresses au public régulièrement. D'ailleurs, il raconte presque plus qu'il n'incarne. Mmh. Alors après, c'est la limite du spectacle. C'est une vraie question, hein, cette façon de raconter, qui est comme une forme de triangularité entre acteur, histoire et spectateur. Voilà, il s'adresse beaucoup, beaucoup et très régulièrement à nous. Donc, il nous englobe. Et d'ailleurs, en fait, ils jouent sur beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'au départ, on a l'impression qu'ils accueillent une nouvelle actrice. Qui est, en fait, cette jeune femme, Ruth Beckart, qui joue pour la première fois avec eux. Et donc, ils la mettent au centre de leur collectif, en lui donnant le beau rôle, en lui donnant le premier rôle. Enfin, le beau rôle, d'ailleurs. C'est pas forcément le beau rôle, mais pas du tout même. Mais, en tout cas, le rôle central
important
de cette histoire. Et ça, ça joue aussi. Mmh. Et en fait, il y a plein de choses qui vont être en permanence mises en relation. Par exemple, il y a une chose qui est très importante dans le cinéma de Bergman, qui est l'enfance. C'est une chose capitale.
Ah bon?
Qui a dans... Ah oui,
non,
enfin, pardon de dire des banalités.
Mais non, mais je rigole.
Excusez-moi.
Anna, c'était pour intervenir un petit peu.
Très bien, vous pouvez intervenir.
Ah bon,
très bien, intervenez, Arnaud. Bon, donc il y a l'enfance. Et l'enfance, là, donc, parce que dans cette histoire, donc, cette comédienne Ruth va jouer Marianne. Et puis elle va distribuer les rôles. Donc il y aura son mari, Marcus, puis son amant David et leur fille Isabelle. Et Isabelle est jouée par Yolaine de Kersmaeker. Donc, il y a une adulte qui a une femme de 50 ans qui va jouer cette petite fille.
Une actrice génialissime.
Qui est une actrice absolument géniale et qui va avoir une façon de ponctuer les scènes avec ses interventions d'enfants qui sont, pour moi, vraiment du très, très, très grand art parce qu'elle a saisi, il y a un sens de l'observation, du détail et de comment on se met dans la peau d'un enfant sans jamais jouer l'enfant, bêtement, évidemment, qui est absolument prodigieuse.
Voilà pour un premier point signé Anna Segalevitch. René Solis, sur ce nouveau spectacle, Tejestan et The Rovers, hein, deux collectifs.
Anna a bien décrit, et on retrouve évidemment toute la patte de Tejestan, les trucs, les tics, et je dois dire, moi, c'est un des très beaux spectacles de Tejestan.
J'ai cru que vous alliez dire l'inverse, quel suspense. René Solis est capable de tout, Marie Sorbier, je vous préviens.
J'aime bien, il est surprenant, on ne sait jamais ce qu'il pense des spectacles avant le début des émissions.
Il y a quelque chose de très important, vous parlez de l'attention des acteurs et de Yolande de Kersberger. Il y a quelque chose qui est très beau, alors, et qui est quelquefois un peu forcé, et qui là, je trouve, ne l'est pas dans les spectacles de Tejestan, c'est l'attention des comédiens les uns envers les autres. Il y a cette idée qu'à tout moment, chaque chose, tout peut basculer et que chacun est en train de soutenir et en même temps d'écouter totalement ce que dit l'autre comme s'il le découvrait. Alors c'est toute leur façon de faire du théâtre comme si ils jouaient en découvrant ce qu'ils disent. Ils ont une maîtrise de ça qui est quand même assez remarquable. Vous êtes pas d'accord, Arnaud? Je vous vois faire la
main. Non, mais j'en parlerai le moment venu.
Sur ce scénario de Bergman, donc il y a un trio, qui est une femme, son mari et son amant. Le mari est musicien, l'amant est metteur en scène, elle-même est actrice. Bon, on est dans le milieu du théâtre. De cette histoire, de ce scénario, ils font une comédie noire absolument extraordinaire, bascule dans la noirceur la plus totale. Et c'est une comédie qui pousse à fond façon mélo, d'une certaine façon. Mmh. C'est-à-dire, on est aussi dans du mélodrame. Et y compris dans des scènes qui sont tellement presque caricaturalement mélodramatiques, l'histoire de l'enfant et du suicide. Il y a une scène où le père propose à son enfant de se suicider, qui est absolument épouvantable, qui est d'une violence incroyable, et qui, d'une certaine façon, a presque une dimension comique et d'humour noir dans la façon dont il la joue, et en même temps il ne se moque pas du tout et à aucun moment de ce qu'il joue. Et je trouve ce spectacle d'une intensité formidable. Je trouve qu'ils tiennent vraiment du début à la fin avec toute leur façon de faire, justement. Et puis je trouve que cette actrice qui est nouvelle chez eux et qu'ils accueillent et à qui ils donnent effectivement un rôle qui est écrasant, c'est énorme ce qu'elle doit faire, cette Ruth Beckart, elle est formidable. Absolument formidable.
Alors, Marie Sorbier, infidèle?
Je suis pas du tout d'accord. En fait, les Tejestan, on les aime bien, on les voit très souvent. Ça fait 17 ans, je crois, qu'ils sont accueillis aux Têtes de la Bastille. Je crois que c'est ce qu'on nous annonce quand on arrive là-bas. Et en fait, je crois qu'il y a
une
lassitude. Ouais. Là, j'ai ressenti une lassitude. Et puis, sur celui-là en particulier, autant sur certains, j'étais encore cueillie, quelque part. Et là, non. Je trouve que une fois qu'on s'assoit dans cette salle et qu'on se dit très bien, les Tejestan vont monter quelque chose de Bergman, on s'attend, mais alors exactement à ce qui va se passer pendant les 1h45 dont dure le spectacle, il y a aucune surprise. C'est très bien fait. Enfin, encore une fois, je crois qu'il y a pas grand-chose à dire. Les acteurs sont prodigieux, ils savent faire ce qu'ils savent faire, mais ils nous le font quand même très souvent et on est toujours dans le même type de jeu. Ils ont une patte qu'on reconnaît, et c'est très bien d'avoir une patte, et c'est très bien d'avoir instauré une autre façon de jouer, mais c'est toujours la même, donc on s'attend exactement à ces espèces de têtes incroyables qu'ils nous font. Ils vont parfois chercher un peu le rire, je trouve, un peu, ça force un peu là-dessus. Moi, ça me gêne quand on vient me chercher, j'aime pas ça, je me sens un peu violentée. Donc mes émotions, ça me plaît pas. Et puis, ça c'est pour l'aspect général, et puis moi j'ai été un peu gênée du montage qu'ils ont fait entre ce scénario et cette fausse autobiographie qui est l'Aeterna Magica, et qui est un roman, pour moi c'est plus un roman qu'une autobiographie, mais qui est un roman formidable. Et pour le coup, je trouve que les incursions, les passages de ce texte-là dans ce scénario d'infidèle étaient parfois un peu surjoués, justement. Donc ça m'a un petit peu gênée, tout ça.
Bon, c'est ce que j'allais dire. Le dernier point, en tout cas, la lassitude des Tejestan, moi, elle ne me guette guère, parce que effectivement, je suis quand même très, 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 très client. Mais c'est plus effectivement le montage qui m'a paru compliqué, complexifiant tout à fait inutilement, parce que on prend le scénario d'Infidèle, il y a vraiment de la matière. Enfin, et ils n'ont pas souvent fait ça, me semble-t-il, de mixer ils réinterprètent, et ce qu'ils font très bien, que ce soit Tchekhov ou Martin Grimp ou que sais-je, ou même d'ailleurs des scénarios de films, on pense à Mon dîner avec André, des choses comme ça. Mais là, j'ai quelque chose qui pour moi ne fonctionne pas.
Je pense que c'est parce qu'il y a une obsession de dédramatiser, de dépathosiser Bergman. Enfin, à mon avis, il y a une crainte de ça. Et donc, parce que beaucoup plus, par exemple, que chez Tchekhov, ils sortent
Beaucoup plus.
Il sort tout le temps. Et c'est pour ça que je disais au début, c'est la limite, à mon sens, du spectacle. C'est que, d'un côté, il laisse le spectateur tranquille et ils ne prennent pas cette histoire qu'il raconte du début à la fin, collée à la vitre.
Ils font jamais ça en même temps.
Non.
Ça ne les guette pas, ça.
C'est sûr que ça ne les guette pas. Mais donc, d'un côté, voilà, on a le plaisir de ça parce qu'on est tranquille comme spectateur. On peut se promener, on peut réfléchir, on peut prendre des choses, etc. Et en même temps, voilà, le fait de dédramatiser très 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 régulièrement et un tout petit peu systématiquement fait que, à un moment donné, on a envie de raconter l'histoire et on a envie de se prendre au jeu de cette histoire, en fait. De simplement raconter et suivre ce scénario et cette histoire d'amour déchirante et tragique. Alors, bien sûr, avec leur façon de faire, mais là, pour moi, comme il y en a beaucoup, du coup, on perd un tout petit peu d'émotion, en fait. D'émotion. Et je trouve qu'il y a deux passages. Il n'y a pas énormément d'émotion, mais il y a deux passages qui sont très beaux.
Quand même un comble, avec, parce que justement, c'est là où ils sont d'habitude très forts, c'est que l'émotion arrive alors qu'on ne s'y attendait absolument pas. Et c'est une des leurs très grandes forces, des spectacles les plus réussis. Ça peut arriver là.
À la fin, elle arrive quand même. Il y a quand même des moments où...
Oui, moi, je suis pas d'accord sur l'émotion. Je trouve qu'elle est là et justement, par rapport à la lassitude. Moi, il y a des spectacles de Tégestal où je dis ouais, bon, voilà, franchement. Donc, je vois ce que vous voulez dire. Je suis pas inconditionnel à chaque fois. Je trouve que des fois, on voit un peu trop leurs trucs, quoi, qu'ils sont un peu en roue libre. Celui-là, je trouve pas. Je trouve qu'ils sont dans des choses justement un peu plus difficiles et qu'il y a des ruptures. Moi, j'étais perpétuellement relancé.
C'est-à-dire que j'étais pas du tout. Ils mettent en chantier vraiment des choses
un ronronnement de la chose ou dans quelque chose qui était sur des rails, mais quelque chose qui, justement, de temps en temps, est à l'aise dans des directions qui sont pas forcément celles qui creusent habituellement. Et là, ils indiquent, enfin, c'est un spectacle qui est finalement assez complexe. Et moi, j'ai aimé ça. C'est-à-dire que je trouve que, et par ailleurs, je trouve que l'émotion, elle est quand même là. Elle est en même temps mise à distance, évidemment,
tout
régulièrement.
Temps, ouais.
Mais elle est fortement là. Il y a quand même la dimension, la transformation de cette comédie où effectivement on rit beaucoup en quelque chose d'absolument atroce, voilà, ça fonctionne et on la prend quand même en pleine figure.
Marie Sorbier.
Oui, moi l'émotion je ne l'ai pas ressentie à aucun moment. Après j'ai vu des acteurs jouer et je trouve ça formidable de voir des acteurs jouer, mais je ne suis jamais rentrée dedans complètement. J'étais vraiment spectatrice qui était en train de regarder le spectacle et du coup de l'analyser puisque j'avais cette distance. Il me laissait la distance nécessaire pour le faire, donc à un moment donné
ça c'est agréable aussi de se créer
c'est
son propre
parfois,
parcours.
C'est agréable parfois, complètement d'accord, et là pourtant ça m'a un peu gênée. Je sais pas, peut-être le côté trop systématique, ou alors justement cette non-surprise, c'est-à-dire que je savais un peu comment tout ça allait se dérouler et comment ils allaient faire. Donc oui, le seul point positif, enfin le point positif que je dirais que j'ai trouvé assez touchant, c'est je trouve que transparaît de tout ça un espèce d'amour pour Bergman qu'ils ont ou qu'il a, enfin, qui est assez beau, et le jeu qui est dit au début et à la fin, puisqu'on a quand même beaucoup de métathéâtre, on l'a dit, hein, mais la première scène et la dernière, on sort du scénario et on est sur l'auteur qui parle à ses acteurs. J'ai trouvé ça assez beau, parce qu'il se refuse à faire des hommages, ça n'en est pas un, et en même temps, en assumant ce jeu sur scène, il y avait un petit côté comme ça que je trouvais très joli.
Et puis ça leur permet de réfléchir eux aussi sur la fabrication de la fiction, sur comment quand on est comédien, on est vampirisé par un metteur en scène, quel plaisir on trouve à ça, parce que c'est toujours ambivalent. C'est-à-dire que c'est pas univoque la façon dont ils font les choses, et c'est ça que je trouve intéressant.
Dernier mot, René Solis.
Oui, et notez aussi que Bergman est une source inépuisable pour le théâtre flamand et néerlandais, puisque Ivo van Hove a adapté beaucoup travaillé sur des scénarios, et lui aussi travaille comme Tegestan, non pas sur les films, mais sur les scénarios des films. Et donc voilà, il y a là une matière qu'ils explorent, et un revival, on va dire, de Bergman, qui est du côté du théâtre. Bergman ayant par ailleurs fait beaucoup de théâtre.
Plus de théâtre que de films encore, c'est pour dire.
Mais son théâtre n'était pas ce qu'il y avait de... Bon. J'ai deux, trois souvenirs qui ne sont pas... C'est pas ce qu'il y avait de plus brillant chez lui. Et donc, ce théâtre de Bergman, il est là, maintenant, vivant avec Tegestan, avec Ivo van Hove.
Avec Tegestan et deux Rovers. Hein.
Oui,
ils sont deux collectifs, absolument, qui co-signent Infidèle, rappelons-le. C'est jusqu'au 28 septembre au Théâtre de la Bastille. C'est dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Il y aura une soirée samedi prochain, le 22 septembre, à partir des 19h au Théâtre de la Bastille, avec une avant-première de la ressortie en salle du film Persona. Et à l'issue de la projection, il y aura un échange avec Frank Barkhuizen, qui fait partie de Tejestan, avec la cinéaste Isabelle Rebre, qui a publié un livre sur Ingmar Bergman. Voilà, c'est samedi soir prochain, entrée libre au Théâtre de la Bastille. Et puis le spectacle continue en tournée, infidèle. Il sera au Théâtre de Rungis en janvier. En janvier également au Théâtre Studio d'Alfortville. Puis au mois de février à la Minoterie à Marseille. Février encore au Tanner à Bruxelles. Février toujours au Théâtre de Lorient. Et puis au mois de mars au Théâtre Alibi de Bastia, au CDN d'Orléans. Et enfin au mois d'avril, infidèle sera à l'affiche de la Comédie de Genève et à la Passerelle à Saint-Brieuc. On conclut l'émission avec le jeu de la dispute et Sarah Dion qui nous a rejoint pour nous rappeler d'abord la question du jeu de vendredi soir. Sarah.
Quel auteur est à l'honneur à l'occasion de l'édition 2018 du Festival America ?
C'est
John Irving.
Ah oui, samedi, 14h, j'enregistrerai la masterclass de Laura Kasiske. Ils sont dans la salle des mariages de la mairie de Vincennes. Et d'autres émissions de France Culture seront également présentes dans ce week-end au Festival America. Ce soir, France Culture, toujours très corporate, la revue papier, la revue de France Culture a gagné, c'est le numéro 25, Où vivons-nous, coédité par Radio France et Exil. La question, Sarah ?
Pour l'occasion, du coup, la question est à combien de dollars la construction du mur voulu par Donald Trump entre le Mexique et les États-Unis a-t-elle été évaluée ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales. Mais vous n'écoutez pas assez l'émission. Envoyez à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez également vous abonner au podcast de cette émission. Rendez-vous demain à 19h, dispute musique avec Lucille Comeau, Emmanuel Dupuis, Charles Ardenne. À notre affiche, Tristan et Isolde Wagner, direction Philippe Jordan, mise en scène Peter Sellars. Vidéo Bill Viola, c'est à l'Opéra de Paris. Billy Budd de Britain, dirigé par Ivo Bolton et mise en scène par Deborah Warner, c'est un DVD et Blu-ray chez Bel Air Classique. Et puis le petit salon de Lucille Comeau aura pour thématique le centenaire Bernstein, faut-il réévaluer le compositeur ?